Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Podcast Factory.
Écoutez et regardez Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on partage nos victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes 2 brillantes partenaires. Salut Elsa. Salut Margaïde.
Hello.
On a un petit souci, ça va? Pour cet épisode très spécial sur les Warriors dans le milieu de la musique, on a le plaisir d'enregistrer depuis le festival La Fiesta des Suds à Marseille.
C'est pour ça que vous entendez la musique derrière nous.
Voilà, on a les répétitions du festival juste à côté. On est ravis d'être là, bah déjà parce qu'on adore ce festival, parce qu'en plus on est sur l'esplanade du J1, on a une super vue et que c'est super classe. Et aussi parce que c'est Tsugi Radio qui nous prête très gentiment leur plateau et qu'on va du coup pouvoir se prendre pour des vrais pros pendant 1 heure. Mais aussi et surtout, on a aujourd'hui, exceptionnellement, 3 invités avec nous, et pas n'importe lesquels. Elles ont monté leur lieu envers et contre tout, elles dirigent des festivals gigantesques, elles bousculent les codes de leur genre musical, elles envoient paître les managers qui les prennent de haut, bref, elles assurent, elles recadrent, elles claquent, elles avancent et font avancer. Donc sans plus tarder, on va vous les présenter. Donc avec nous, Francine Ouedraogo-Bono, salut.
Bonjour.
Juliette Miché, salut toi.
Coucou.
Et Marie-Josée, justement.
Bonjour.
Bonjour. Elsa, je te laisse faire les présentations.
Oui, bonjour. Alors Francine, toi tu as ouvert très récemment avec ta complice Aude Caboret la salle Le Maqueda à Marseille, qui est l'ancien poste à Galène. Qu'est-ce qu'on peut écouter au Maqueda?
Alors au Maqueda, on peut écouter un peu tout style de musique, on fait des soirées, des concerts. Il n'y a pas longtemps, on était très très contentes d'accueillir Bachar Markhalifeh qui nous a fait un super concert. Voilà, on peut écouter un peu tout, tant que ça nous plaît et que ça plaît aux Marseillais.
Ok, super, merci beaucoup. Juliette, toi tu es en cours de rédaction d'un master en études de genre sur la place des femmes dans les fanfares. Donc tu es étudiante à Paris 8 et également trompettiste. On pourrait se dire qu'a priori ça va dans les fanfares, mais en fait apparemment il y a aussi du sexisme là-bas aussi. Qu'est-ce qui t'a amené toi à te pencher sur ce sujet?
En fait, je voulais faire un master en études de genre à Paris 8 et du coup j'ai voulu travailler sur les fanfares qui est du coup mon loisir principal. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on est quand même dans un milieu donc, comme le jazz ou les musiques actuelles avec des instruments plutôt genrés masculins et où du coup la part des femmes, notamment instrumentistes, est très faible. Donc en musique pro ça tourne autour de 5%, dans les fanfares comme amateur on est plutôt à 30%, mais voilà, donc ça reste des petits chiffres et il y a encore des choses à faire.
Ça j'imagine. Marie-Josée, bonjour, merci beaucoup d'être là. Marie-Josée est chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres quand même, quel honneur, et fondatrice et directrice du Festival des Suds à Arles. Donc tu fais partie des rares femmes en France qui sont à la tête de festivals musicaux. J'imagine que ça n'a pas dû être facile tous les jours.
Non, ça n'a pas été facile, en effet, c'est vrai, beaucoup de difficultés. C'est déjà difficile, je pense, pour tout le monde, hein, même ouais. Pour les hommes. Ouais. Mais c'est vrai, quand on est une femme, c'est
la double
du sud en plus, avec un accent, c'est une difficulté supplémentaire.
Bon, bah on aura l'occasion de parler de tout ça au cours de l'épisode.
Yes, merci à vous trois en tout cas d'être avec nous. La place des femmes dans le milieu musical, bon, bah, c'est encore une fois un vaste sujet, comme tous les sujets qu'on a abordés par le passé. Marga, je crois que tu nous as préparé un petit état des lieux, non ?
Ouais, exactement. Alors, sur les conseils de Marie-Josée, j'ai potassé un peu le rapport de HF Bretagne, qui a fait un rapport donc, sur la place des femmes dans le spectacle vivant, donc pas uniquement la musique, mais tous les spectacles. Et en fait, la situation est particulièrement catastrophique en fait, dans les musiques actuelles. C'est assez criant. Et moi, il y a une statistique en particulier qui m'a frappée. C'est que quand un homme est directeur artistique d'un festival, il programmera seulement 7% de femmes. Alors que si la direction artistique est assurée par une femme, alors on aura sur scène à peu près la parité. Donc c'est quand même assez frappant. Donc le premier levier pour que les programmations dans les festivals comme ici à la Fiesta du Sud ou dans vos festivals, est-ce que c'est déjà qu'il y ait plus de femmes à embaucher des femmes à la direction artistique, Marie-Josée, Francine?
Ben oui, mais c'est pas simple quand même, parce que pour tout vous dire, moi j'ai créé ce festival, c'est vrai, j'ai passé la main là à la direction, j'en assure maintenant la présidence, et il se trouve que j'ai passé la main à mon collaborateur depuis 15 ans parce que je savais que c'était la bonne personne, et c'est un homme. Alors voilà, c'est vrai que ça a été mon seul regret, mais on n'y peut rien, c'est comme ça, et c'est pas si simple de renouveler naturellement, parce que...
Pourquoi ? Parce que les femmes s'auto-censurent, ou parce que dans les écoles il n'y a pas forcément de formation où les femmes sont présentes?
Alors, je suis pas sûre qu'une formation de direction, enfin, c'est pas si simple que ça, quoi. Ça prend beaucoup sur le tas. Je crois qu'il y a beaucoup de blocages. Et en priorité, évidemment, le sexisme ambiant, c'est vrai, ça existe, et particulièrement dans les musiques actuelles. Mais le premier handicap, c'est vraiment tout ce qu'on a pu intérioriser. Mmh. Et là souvent, c'est terrible, c'est vrai. C'est vrai, et ne pas se mettre au premier plan et... oui, rester toujours au service d'eux, etc. Donc ce n'est pas facile.
Francine, même question. Hein. Est-ce que du coup, avec Aude, tu es attentive à programmer autant de femmes que d'hommes? Est-ce que c'est une question que vous vous posez au moment de choisir qui vous allez accueillir dans la salle?
Alors, nous, on a aussi un festival qui s'appelle Melting Art. Et c'est vrai qu'on a toujours, depuis quelques années, on met toujours un petit point d'honneur à faire soit un lancement, soit une clôture avec la femme à l'honneur, ou voilà, une date avec la femme à l'honneur, parce qu'on pense que c'est important et qu'on n'en voit pas forcément énormément dans les programmations, en fait. Et puis même nous, des fois, maintenant, je pense qu'il y en a de plus en plus, mais même il y a peut-être 5-10 ans, quand on se posait la question, on voyait pas des grosses têtes d'affiche non plus au niveau des femmes. Donc du coup... oui, on aura envie de ça, mais il faut qu'aussi les femmes aient des chemins et pour pouvoir aussi arriver à avoir des belles scènes. Donc du coup, et avoir aussi, voilà, qu'elles soient découvertes par le grand public. Après, nous, on est une équipe aussi, on est que pratiquement beaucoup de femmes. Donc il y a Aude, il y a moi, il y a Léa, il y a Carole. En lumière, nous, dans notre salle, il y a aussi Sidonie, mais il y a aussi Max. La chose où il faut qu'on fasse aussi attention, c'est, oui, on a envie qu'il y ait plus de femmes dans nos métiers, mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la qualité du poste. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, tu as laissé la direction des Suds à ton collaborateur parce que c'était la personne la plus pertinente, et ce n'est pas parce que c'est un homme ou c'est une femme. Il y a ça aussi auquel il faut faire attention. Après, tout à l'heure, j'entendais aussi, c'était par rapport... avant, il y avait beaucoup, beaucoup d'hommes, ça veut dire à la direction artistique. Mais il faut que ces hommes, voilà, aussi, ils accompagnent et recrutent des femmes. Mm-hmm. Et il faut qu'ils leur laissent un peu de place. Et qu'ils...
Oui, c'est pas seulement un job de femme de faire avancer les femmes.
Voilà, on non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai travaillé à la MJC d'Aubagne aussi avant, avec Yohann Otokpa, qui m'a aussi voilà, laissé la place, même si c'était quelqu'un de très machiste, mais quand même, il m'a...
Si tu nous écoutes.
Voilà, qui m'a accompagnée. Salut, Johan. Mais j'ai aussi Thierry Noag, qui est au PAM et qui est aussi dans ce milieu-là.
Qu'est-ce que c'est, le PAM?
PAM, c'est le réseau de musique actuelle de la région PACA, voilà, dont on fait partie. Et où il y a aussi Nadine Verna qui est la directrice aussi.
Et oui, parce qu'on a un public qui est présent, très sage, mais ils sont là. Hein.
Et voilà, et du coup, il y a aussi, c'est aussi important, je pense, pour celles qui arrivent, d'avoir aussi des figures, des femmes, bah, comme toi, mais comme Nadine, mais aussi, je pense, comme moi, ou, et comme, comme les autres, ça... Ça leur permet de
ici
se dire
aussi,
que...
Lucie, la fiesta.
Lucie, oui, bien sûr. Si je ne dis pas tout le monde, c'est peut-être parce que j'ai un peu peur et que c'est un peu impressionnant aussi de parler, donc je dois oublier plein
on
de choses.
On est toutes impressionnées, donc ne t'inquiète pas.
Voilà, je pense qu'il y a aussi voilà, ces figures-là qui permettent aussi de dire à celles qui arrivent derrière que c'est possible et voilà, de leur laisser de la place. Et ces hommes qui sont aussi à la direction soit de festival ou soit... de boîtes de prod ou soit de salles, à aussi recruter des femmes et aussi leur laisser la place. Et, bien sûr. Et voilà.
La représentation, c'est un sujet sur lequel on reviendra par la suite. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Yes, le principe, c'est de mettre en avant des témoignages de femmes qui sont sorties victorieuses de situations de sexisme. Et notre première témoin s'appelle Kat. Kat, c'est une figure du milieu musical marseillais, et même plus largement dans la région, parce qu'elle est bénévole dans je ne sais combien de festivals, dont la Fiesta des Suds, et elle est en ce moment même à la billetterie, donc elle ne peut même pas assister à l'enregistrement. Mais si tu nous entends, Kat, on t'embrasse fort.
Ouais, bisous Kat, merci.
C'est une femme engagée, c'est une féministe accomplie, c'est une passionnée de musique, et c'est mon amie que j'aime. Voilà, c'était mon cheesy time. Elle a évidemment vécu des tonnes d'épisodes de sexisme, mais l'histoire qu'elle a choisi de nous raconter se déroule au début de son expérience de multi-bénévole, en l'occurrence en 2012, et elle bosse alors sur le festival Mars Attack, autre festival mythique marseillais. Et donc sur place, elle s'occupe de l'accueil des artistes de nuit et elle nous raconte ce qui s'est passé le dernier soir.
Dernier soir de l'édition, très fatiguée, petit tour des loges et j'arrive dans une loge où il y avait plein de personnes qui n'avaient pas le droit d'être là. Je leur demande gentiment de s'en aller et rapidement, en fait, le manager commence à s'énerver et à monter dans les hauts. À tel point que ma responsable doit intervenir. Et là, il devient violent, un peu dans l'attitude. Et on se dit, bon, ça sent pas bon. Et sorti de nulle part, un pote à lui qui décide de se mêler, de nous prendre de haut, etc., qui se met à nous parler mal. Et je lui demande d'arrêter. Et il se tourne vers moi et me fait, va perdre 50 kilos avant de me parler. Ça a été... d'une violence, ce truc. Et moi, j'étais un peu tétanisée parce que je n'ai pas su quoi répondre sur le coup. Et la colère est très rapidement arrivée. Où j'ai demandé à la sécu de le dégager, où je l'ai pourri, mais comme la vieille chaussette qu'il était. Parce que ce qui m'avait fait le plus mal, c'était qu'il était beaucoup plus âgé que moi, qu'il trouvait ça normal d'utiliser ça comme argument. Et surtout qu'il y avait plein de potes femmes à lui qui étaient là et qui ne sont pas intervenus pour lui demander d'arrêter. Ça a été hyper important pour moi de répondre parce que j'étais encore jeune à cette époque-là, pas aboutie dans mon féminisme comme maintenant. Et surtout, ça a été hyper important d'avoir été entendue et appuyée par les responsables Béa et Tolo. Tolo qui était le directeur artistique et qui leur a bien fait comprendre qu'ils n'étaient plus les bienvenus sur le festival. Et moi, mine de rien, ça faisait pas longtemps que j'avais intégré l'équipe. Et donc, de sentir ce soutien, ça avait été réellement précieux.
Bah, bravo Kat,
ouais, bravo.
Déjà d'avoir réagi parce que bon, bah, on sait toutes que c'est loin d'être évident sur le coup, souvent on est sidéré de la violence des propos qu'on nous adresse et surtout quand on est bénévole, donc à un poste qui se situe tout en bas de la hiérarchie, donc son témoignage à mon sens il soulève deux sujets importants, bon d'abord celui de la grossophobie hein, puisque le milieu musical évidemment n'échappe pas aux injonctions sociétales, c'est aussi un milieu ultra normé et qui du coup génère des violences très intenses pour toute personne qui n'entre pas exactement dans le moule. Et unique moule. Mais ça pose aussi la question du rapport entre la direction et les équipes à tous les niveaux de la hiérarchie, puisque là, bon, elle avait une direction qui était sensible aux questions de discrimination, qui a pris son parti sans condition, mais on sait que souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, Francine, de votre côté, dans votre équipe, est-ce que vous avez créé une sorte de charte? Est-ce que vous avez réfléchi à la façon de réagir si une personne de l'équipe se retrouve confrontée à une violence? Est-ce que c'est quelque chose auquel on réfléchit quand on monte un lieu et un festival? Ou est-ce que ça se fait plutôt au fur et à mesure, au cas par cas?
On va dire que ça se fait au fur et à mesure,
ouais.
Mais c'est quelque chose qui, je pense, pour nous est tellement évident,
ouais.
En tout cas, que forcément on réagira. Après, là, c'est vraiment par rapport à une, voilà, comme tu disais, la grossophobie et puis au sexisme. Mais bon, après, pour nous, c'est aussi pour toute l'équipe si...
Bien sûr.
C'est, voilà, c'est normal de protéger son équipe et de lui donner les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse travailler. Donc, du coup, à partir du moment où ils se font agresser, bah oui, on est là. Ouais. Et voilà.
Vous n'avez pas de protocole particulier, vous avez pas...
On les défonce.
D'accord. Très bon protocole. Très bien, meilleur protocole.
Et Juliette, dans les fanfares, est-ce que pareil, est-ce que c'est un sujet qui est abordé dans les groupes, justement, cette question du sexisme et des agressions entre musiciens et musiciennes?
Moi, je vais répondre sur juste le rapport au corps. En fait, ça m'a fait penser, du coup, sur... le fait que quand même, donc cette remarque sur le physique qui est hyper déplacée, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent quand on est musicienne, puisqu'on est ramené sans cesse à son corps, à son genre, et que du coup, on n'est pas vraiment vu comme des musiciennes. Donc je dis à titre personnel parce que je fais de la trompette, mais c'est aussi ce qui ressort dans le cadre des enquêtes sur le sujet. Et donc c'est... vraiment, ça fait partie des stéréotypes de genre qui freinent, on parlait de ce qui peut freiner les femmes artistes, qui freinent l'avancée des femmes puisqu'elles ne sont pas vues comme des artistes, elles sont vues comme des enveloppes, comme, ouais. Voilà, comme des bouts de viande. Et d'ailleurs, Paye ta note décrit très bien ça, ouais. Et plein de témoignages. Mais
ouais, bon, page, là, on est sur les page Facebook, on vous invite vraiment à aller voir si, ouais. Voilà, pour en savoir plus sur ce que peuvent subir comme sexisme les femmes dans le milieu de la musique.
Tout métier confondu, d'ailleurs.
Je voulais juste rajouter, c'est vrai, parce que quand on est dans un concert et qu'il y a une artiste féminine qui est sur scène, on va avoir des commentaires, même par rapport aux programmateurs, aux autres, et même par rapport au public, qui vont faire un commentaire sur la prestation, pas forcément sur la prestation artistique, mais sur ce qu'elle met, sur ce qu'elle porte. Et moins chez l'homme que chez la femme. Chez la femme, ils vont dire, alors elle va avoir une prestation artistique qui est excellente.
Mais qu'elle est bonne? C'est ça qui nous intéresse.
Voilà, mais est-ce que d'abord elle est super, ils vont me faire une remarque sur son physique. Donc si elle a un physique qui est au top, donc là il n'y a pas de souci, elle est bonne.
Elle est validée.
Elle est validée. Mmh. Mais si ils vont dire qu'elle est habillée comme un sac ou que,
alors qu'elle pourrait être plus féminine.
Voilà. Alors que chez l'homme, il est habillé comme un sac, il est habillé comme un sac. On n'aura pas ce commentaire-là. Mmh.
Et on s'intéresse à ce qu'il produit, bizarrement.
Exactement. Et c'est vrai que c'est des commentaires que j'entends souvent. Ouais, ouais. Sans forcément y réagir.
Francine,
parce que c'est
pardon,
trop...
Marie-Josée.
Je suis là.
Oui, voilà, c'est ça. J'ai passé la parole à Marie-Josée. Pareil, je te vois acquiescer à ce que dit Francine.
Ah, oui, c'est évident. C'est évident. Oui, c'est tellement naturel que. Voilà,
on remarque même
du
plus
temps. Oui, tout à fait.
Et comment on fait pour lutter contre ça? Alors, est-ce qu'il y a des.
C'est pas simple, ça, quand même. Parce que là, c'est difficile de s'intercaler entre le public, quand il y a beaucoup de monde. Non, là, c'est vraiment un travail de fond qui va prendre du temps.
Oui.
Mais je pense que c'est carrément un autre niveau qu'il faudrait travailler ça. Moi, ces derniers temps, j'écoute pas toutes les musiques, parce que c'est vrai qu'on est dans nos circuits, dans les styles musicaux qui nous concernent. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé par hasard, parce que c'était programmé à Arles, une vidéo, le dernier clip d'Hamza. Et j'étais carrément épouvantée. Du sexisme, mais violent, enfin, que ça représentait. Je me dis, des millions de vues, évidemment, un succès fou, et beaucoup de gens qui vont aller regarder cet artiste sans se poser
alors
de questions.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas le clip, qu'est-ce que c'est en gros?
Moi, c'est rien du tout. Lui, il chante, je ne sais pas ce qu'il dit, mais ça, c'est pas grave. J'ai l'habitude, au contraire, que ce ne soit pas un problème et que ce soit la musique qu'on ait envie d'écouter. Mais après, il y a sa nana, a priori, c'est sa nana qui s'adresse et qui se tortille de manière absolument voluptueuse. Elle est belle, évidemment. Voilà, et c'est ça tout le temps du clip. Un point, c'est tout. Et elle ne dit rien, évidemment. Et évidemment. Elle ne fait qu'être belle et se tortiller très sensuellement. Certes, c'est très bien dans l'absolu, mais que ça devienne un clip vidéo, je crois que c'est ce qui induit obligatoirement un comportement sexiste naturel pour tous les publics à partir de là. Et qu'il n'y ait aucune femme qui se révolte à partir de clips comme ça, que ça fasse des millions de vues sans qu'il y ait de réaction, et que ce soit un musicien très coté, très demandé. Enfin, pour moi, c'est
parce que quand c'est les femmes qui s'approprient par contre la sensualité, etc., là, ça peut être un outil au contraire d'empowerment. Quand c'est une femme artiste qui revendique son appétence sexuelle ou sa sexitude ou sa bonassitude, je pense à Lizzo notamment, qui en ce moment est une super figure en termes d'empowerment. Mais du coup, vu qu'on est sur les artistes, Marga, tu vas continuer sur le fil. T'as eu la chance de rencontrer cet après-midi.
Oui, j'ai trop de chance. J'étais trop contente. Ouais. Et elle aussi, elle se révolte. En fait, c'est une artiste qui est programmée à la Fiesta cette année, donc on va aller tous ensemble la voir tout à l'heure à 20h. Donc elle était vraiment heureuse de pouvoir témoigner sur ce sujet, parce qu'en fait ce qu'elle dit, c'est qu'il manque vraiment un mouvement comme MeToo, comme le mouvement voilà, qui avait suivi après Balance ton porc, qui avait dénoncé Harvey Weinstein à la base. Donc elle, elle dit qu'elle vit quotidiennement le sexisme, c'est sur daily basis, elle m'a dit, en anglais, dans le texte, ouais, l'interview était en anglais. Et quand je lui ai demandé une anecdote, donc elle m'a tout de suite parlé de son manager.
Son ex-manager.
Son ex-manager.
Très important.
Voilà. Donc l'interview est en anglais, mais Elsa vous fera la traduction après.
He would make comments about, like, if I made a video and maybe some of my body was showing, he would make sexual comments about that, which made me feel really uncomfortable. And I had to be really, I had to be a different person with him. I had to have a poker face. I could show no emotion. And I had a step in my career where I was about to perform in Jules Holland, and I just said to myself, like, I don't want him to be with me. I don't want him to be part of that experience, because it means so much to me, and I can't do this anymore. I can't pretend anymore and be like, that's good, that's fine. So, I mean, I let him know, and then I was like, I said, I don't want to work with you anymore. I've produced my own album, both albums that I've released in the last few years, I have produced myself, and it's really hard for females to get that acknowledgement. Like, this, my album won't be presented as like self-produced, da 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 da. It always makes it look like I would have had a man produce me. So I had to make a book to show all my notes and all my workings for this album, to kind of go, look, I did this. So it will be nice one day, and you know, we will get there. It will be nice for us to be able to be acknowledged as, like, females can produce, they can write, they can be technicians, they can be tour managers too, they can drive they can drive a tour bus. You know, when we get there, then it's going to be a much better, safer place to be in. But you know, the music industry's got a long way to go before it can shake itself up and reform.
Elsa, la traduction pour ceux qui ne sont pas fluents.
Oui, alors je vais faire un résumé, mais en gros, elle dit qu'elle était avec un manager qui était très, enfin, qui faisait beaucoup de remarques inappropriées sur son corps, notamment quand elle faisait des vidéos, des clips, et qu'on voyait un peu son corps, et qui faisait énormément de commentaires sexuels en fait, et qu'elle était très mal à l'aise, et qu'elle se sentait censurée, et qu'elle n'arrivait pas du tout à être elle-même en fait quand elle était avec lui, et qu'un jour en fait, elle a décidé qu'elle en pouvait plus, qu'elle en avait marre, qu'elle avait plus du tout envie de le voir en fait, et elle lui a dit qu'elle voulait plus travailler avec lui. Et en fait, le truc, c'est qu'elle, elle s'est autoproduite sur deux albums, mais que c'était pas du tout mis en avant le fait qu'elle s'était, enfin, que c'était elle qui avait fait tout le travail en fait, et que c'était souvent présenté comme voilà, comme si elle était juste interprète, alors qu'elle avait fait beaucoup plus que ça, et qu'elle trouve que c'est très dur d'obtenir une reconnaissance en tant que femme dans le milieu de la musique quand on fait ce genre de travail et qu'on s'autoproduit, et que du coup, elle espère qu'un jour, bah, ce sera totalement normal qu'une femme fasse, en fait, occupe n'importe quel poste dans la musique, même conduire un tourbus ou être technicienne, etc., etc. Et que ce jour-là, bah, ce sera un milieu qui sera plus safe pour les femmes, mais que pour l'instant, on en est très, loin. Très, très loin. Ouais.
L'une de vous veut réagir à ce témoignage, Juliette ?
Oui, non, mais ça me fait beaucoup penser à ce que tu dis sur la composition, la création.
Ouais.
Ces rôles-là, donc qui sont des rôles les plus prestigieux, enfin les plus valorisés dans la musique quand même, qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Et là-dessus, les chiffres sont écrasants. On est pareil, on est en dessous de 10%. Et c'est assez dur à
corriger.
À corriger en fait.
Dans les fanfares aussi, c'est le cas.
Dans les fanfares aussi, c'est le cas. Moi, j'étais tombée sur de 5 à 10%, alors que pourtant, on a des chiffres déjà normalement meilleurs que dans les musiques pro. Après, il y a des initiatives. Hein. Il y a des, donc,
alors que les compositrices existent, c'est la reconnaissance.
Les compositrices existent. Ouais. Elles existent, mais en fait, après, elles sont soit pas jouées, soit oubliées, ou les deux. Sympa. Et donc, il y a des. Non, mais après, il y a des initiatives. Il y a le Festival Présence Féminine qui, par exemple, qui programme que des compositrices à Toulon. Mm-hmm. Et ça permet de redécouvrir un répertoire super chouette. Et donc ça, c'est pareil, lié aux stéréotypes de genre, notamment sur la capacité de création ou pas de la femme, et le génie masculin ou pas, etc.
Bon, cette fois, on va sortir des festivals et on va entrer dans les coulisses des grandes radios. Et donc là non plus, niveau représentation et programmation, c'est pas gagné. On a reçu le témoignage de Milena, qui a été programmatrice de Radio FIP pendant une douzaine d'années. Elle nous a écrit un long texte, donc on ne va pas pouvoir tout lire, mais pendant un long moment, elle a été la seule femme en CDD constant, je cite, l'éternelle remplaçante. Aujourd'hui, Milena, elle a lâché ce boulot, et je vous lis un extrait de ce qu'elle nous a écrit. Donc les femmes sont là, oui, mais animatrices, speakerines comme ils disent, comédiennes, musiciennes, cultivées, belles plumes, mais juste des speakerines. À l'antenne, l'homme et l'érudit, la femme sont faire valoir. Ma victoire aura été d'avoir pu apporter pendant 12 ans ma vision musicale et ma créativité sur l'antenne d'une des plus belles radios du paysage français, et surtout d'avoir été une voix de la création féminine cruellement manquante, quasi muette dans ce métier qu'est la programmation musicale. Donc on le voit, même les femmes programmées, que ce soit à la radio ou en festival, elles sont encore super minoritaires, mais est-ce que vous, de votre côté, vous voyez un changement, que ce soit un recul, une stagnation, je sais pas...
Non, ça évolue. Ça évolue. Et je pense que ces derniers temps, quand même, tout ce qui s'est passé a provoqué... quand même, hein, oui. Une réaction.
C'est notable.
Et cet été, déjà, ça se voyait sur les festivals d'été, c'était clair.
D'accord.
C'était vraiment affirmé. Et je pense qu'il n'y a pas le choix, là. Là, il va falloir que ça progresse très fortement. Alors, c'est vrai, comme le disait Francine, en même temps, il faut aussi que, oui, des artistes femmes aient du talent. C'est pas qu'on doute leur possibilité d'avoir du talent, mais
qu'elles s'accrochent jusqu'au bout.
Voilà, hein. il faut que le chemin... Il faut qu'il n'y ait pas de blocage sur le chemin, ni de blocage intérieur, ni extérieur.
Voilà, c'est là que j'allais venir, parce qu'on voit de plus en plus de labels de femmes qui se créent pour promouvoir les femmes, pour les faire entrer sur des line-up, sur des programmations. Est-ce que c'est un des leviers qu'on peut actionner pour rendre plus visibles les femmes? Est-ce que c'est le seul? Est-ce qu'il y en a d'autres à votre connaissance?
En tout cas, celui-là, il est important, mais vraiment, tout va être dans l'évolution, dans la formation, et aussi que chacune ait la possibilité, alors là aussi, je ne sais pas, des cercles de parole, c'est au niveau de l'intériorisation, encore une fois, qu'il faut énormément travailler aussi pour que chacune trouve de la confiance en soi et de la force. Et voilà, là oui, il y a certainement beaucoup à faire.
Il y a du boulot.
Oui. Je vois Francine acquiescer.
Ah oui, complet. Complètement. Moi, je pense aussi... Alors, comme tu disais, est-ce que c'est le fait de faire des labels ou d'avoir qui sont exclusivement féminins pour promouvoir la femme? Vous dites très, très bien. Et c'est une bonne idée. Mais pas que ça, en fait. Ça veut dire que déjà, dans les labels qui existent, il faudrait que ça soit... Voilà. Je pense qu'il ne faut pas forcément faire que des labels féminins, mais vraiment que dans les labels qui existent, que ça se mette en place, que justement la femme ait sa place. Et c'est plutôt... Pour
ça
moi,
devient une question qu'on se pose systématiquement.
C'est pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est normal, ça.
Ouais,
que de, à chaque fois, parce qu'après, c'est l'histoire, l'idée en plus pour moi, hein, après c'est ma vision des choses, c'est pas de sectoriser les gens.
Non, bien sûr.
Voilà.
Mais moi, j'ai déjà vu, en tant que Paye Tachnek, j'ai déjà reçu des sollicitations de festivals qui me demandaient de faire la promotion de leur festival parce que, il y avait 30% de femmes programmées. C'est un foutage de gueule immense de se targuer d'être un festival féministe parce qu'il y a 30% de femmes, alors que peut-être l'année précédente, il y avait 8%. Donc, c'est une belle évolution, mais on n'y est pas encore. Et non, je ne vais pas vous envoyer vous féliciter et vous distribuer des cookies parce que vous commencez à faire votre travail normalement, en fait. Hein,
Alors, moi, ce que j'entends beaucoup en ce moment, et je peux dire peut-être depuis 2 ans, c'est que, ou 3 ans, c'est quand on a décidé de faire la clôture dans notre festival Melting Art, la clôture féminine ou une date féminine pour juste marquer le coup. Et on dit, mais ça a la mode en ce moment. Et j'ai entendu des salles et des programmateurs de salles qui m'ont dit, tu sais, tu devrais faire ça, c'est à la mode. Et c'est bien, tu tapes bien dans le mille.
Ah, mais le féminisme est un argument marketing très puissant en ce moment.
Du coup, j'ai été plutôt choquée. Qui me disent que c'est à la mode et que j'ai
mais ça
bien
passera
fait.
Du coup l'été prochain ça sera plus à la mode, on fera autre chose.
Alors je sais pas, il me dit voilà, ou bien il me sollicite en me disant tu veux pas faire une soirée féminine, c'est à la mode. Alors moi je le ressens pas comme ça, moi je du coup ça me blesse un peu, ça me fait un peu chier.
Oui. On a pas trop de problème en fait.
Parce que c'était juste parce qu'on avait envie de mettre encore plus à l'honneur la femme, mais pas qu'ils me disent c'est à la mode, c'est cool, tu es dans la mouvance, tu fais bien quoi.
Ça n'a pas de sens.
Voilà.
Et on va peut-être parler un peu de fanfare là, parce qu'on a la chance d'avoir
une spécialiste.
C'est ça, en fait, moi j'ai vu quelques chiffres que Juliette m'a envoyés. Ouais, la transition était un peu rude, j'avoue.
Et en fait, on n'est pas animatrice radio, je le rappelle. Hein.
Et non, en fait, on parlait tout à l'heure de représentation des femmes, et notamment dans les métiers, et notamment dans les métiers rémunérés. Et moi, il y a un chiffre que tu as mis en avant, Juliette, et qui m'a un peu choquée, c'est que les femmes donc, représentent 35% des musiciens, musiciennes dans les fanfares. On dit fanfaronne d'ailleurs, hein, c'est ça ?
Tout à fait, on fanfaronne d'être fanfaronne.
Donc voilà, elle représente 35% des fanfarons et fanfaronnes. Et tu as cherché donc dans les fanfares professionnels pour voir comment étaient représentées les femmes dans ces fanfares professionnels donc payées. Et qu'est-ce que tu as trouvé ?
Alors du coup, j'ai voulu aussi comparer donc, du coup, et parler de la situation dans le monde professionnel, ce qui n'est pas le cœur de mon sujet, puisque les fanfares sont majoritairement amateur, c'est-à-dire amateur, ça peut très bien jouer, mais ça veut juste dire que les personnes qui en jouent n'en vivent pas.
Elle fait durer le suspense.
Et voilà, je fais durer le suspense à fond.
Attention.
Attention. Donc moi, sur les fanfares qui ont répondu et qui en vivaient complètement, on était sur 0%. Après,
de femmes.
Voilà, 0% de fanfares pro qui avaient des femmes. Après,
ne serait-ce qu'une seule femme. Hein.
Voilà, ne serait-ce qu'une seule femme. Après, il y en a. En fait, mais il n'y en avait pas qui ont répondu à mon enquête. J'avais pas beaucoup de fanfares professionnels qui ont répondu. Et j'ai choisi quand même de le mettre et d'en parler parce que je trouvais que c'était important d'évoquer ce sujet-là. C'est-à-dire que la professionnalisation.
C'est un chiffre parlant quand même.
Ouais, la professionnalisation pour les femmes, donc moi que j'étudie en tout cas musicienne, mais je crois avoir vu notamment avec le rapport HF et compagnie que c'est pareil partout, pour les femmes musiciennes est plus dure en fait. Et donc elles sont moins nombreuses. Et ça, c'est un vrai problème, parce que bon, on peut jouer des espaces de liberté, c'est chouette, mais après, il faut en vivre. Et ça, c'est encore un autre débat. Autre et là, on entre dans un monde plus dur, et il y a eu des travaux là-dessus, donc de sociologues ou de gens qui sont intervenus suite à la publication de mon enquête, qui ont confirmé qu'en effet, on était victime, en tant que musicienne, de discrimination complètement genrée et spécifique qui freinait, voire empêchait, ou arrêtait en cours de carrière. La carrière
professionnelle rémunérée
complètement.
Okay. Les sous.
Du coup, Elisa, t'as un petit témoignage à nous faire écouter sur la justement sur la fanfare.
Bah, c'est le témoignage de Lina avec qui tu as joué, il me semble, Juliette.
Oui, tout à fait. Lina était dans la même fanfare dans laquelle on était.
Et donc elle joue de la grosse caisse et pour elle, jouer dans l'espace public, c'est particulièrement pénible.
Je suis une femme noire, musulmane, arabe, issue des quartiers nord. Je me retrouve touchée en permanence par des gens qui soit me touchent les cheveux, déjà, que j'ai mon instrument ou pas, que je sois sur scène ou pas, des gens qui se permettent de me toucher les cheveux sans mon autorisation. Mais sur scène, c'est de façon exacerbée, comme si vraiment j'étais... Enfin, on pouvait me toucher autant que les gens voulaient. C'était un soir où j'ai joué pendant les nuits debout à Marseille, et j'étais en groupe, donc un groupe très nombreux. On a joué sur le cours Julien à Marseille, et il se trouve que il y avait un feu qui avait été fait, il y avait énormément de monde quoi pendant ces nuits debout là, et il se trouve qu'à un moment je jouais de la percussion et j'étais encore sur la scène à moitié, et il y a trois hommes qui sont arrivés et qui ont commencé à me tripoter de haut en bas, à mettre leurs mains dans ma culotte, dans mon soutif, enfin ça allait très très vite, et là c'est là où vraiment j'ai commencé à être paralysée, et là ma première réaction ça a été d'envoyer un coup de pied pour les écarter de moi, en fait, parce que je pouvais, il y avait rien d'autre à faire. Il se trouve que sur le cours Julien, il y a une fontaine, donc je visais la fontaine pour l'envoyer là-bas, quoi. Donc, le coup de pied, c'est un coup de pied classique de la boxe française, parce que c'est avec les pieds. C'est un chassé. Donc, c'est vraiment, tu relèves ta jambe, tu la plies et tu la propulses au maximum devant toi. C'est très dur de répondre à ce coup. Et souvent, vu que les gens sont trop occupés à te tripoter, ils n'ont pas le temps de voir ça venir. Vraiment.
Quelle guerrière.
Le classique.
Merci pour le tutoriel.
On précise que le coup de pied a fonctionné puisque le mec est tombé dans la fontaine.
Voilà, il est tombé dans la fontaine. Et je sais même pas quoi dire parce qu'en fait, c'est à la fois tellement banal et en même temps tellement scandaleux.
Ouais.
On en entend tout le temps des témoignages de ce type-là et c'est vraiment insupportable. Et j'imagine que c'est encore pire quand on est dans la rue parce que c'est encore plus facile de nous toucher, etc. On est beaucoup plus vulnérable au final.
Complètement. Je crois qu'on n'a pas pris le temps de définir une fanfare, mais du coup, une fanfare, c'est des instruments donc cuivre, des percussions, parfois des vents, donc saxophone, c'est des instruments du coup qui ont la particularité de pouvoir jouer sans être sonorisés. Donc c'est très facile de jouer dehors. On peut même jouer en marchant, etc. Donc c'est vrai que l'espace public, c'est un vrai terrain scène, c'est un terrain classique. Comme le coup de pied jeté de Lina. Et du coup, c'est une scène particulière.
Ouais.
Donc, c'est un milieu où, en effet, les gens peuvent sentir qu'ils ont le droit de venir et qu'ils ont le droit d'intervenir. Et c'est important de reprendre la rue.
D'occuper cet espace.
Et d'occuper cet espace.
Ça fait. D'ailleurs, vous avez un projet, il me semble, avec Lina et d'autres fanfaronnes. Est-ce que tu veux en parler?
Ah oui, je voulais le garder pour les victoires.
Ah ok, bon, on en parlera après. Alors, attention, spoiler. Non, pas de spoiler, justement.
Teaser,
voilà, exactement. Francine, Lina parlait... Donc, de ce qu'on appelle d'intersectionnalité, d'être à l'intersection de plusieurs discriminations, du fait d'être une femme noire, d'être en plus une femme. Est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as pu subir dans ton métier ou pas forcément
Dans ma vie, oui. Dans ma vie entière. Après, j'entends très bien ce qu'elle disait par rapport à ses cheveux. C'est assez. Moi, ça m'est arrivé. Là, j'ai un tissage, donc je suis plutôt les cheveux raides comme vous. Mais par exemple, dans un mois, j'aurai mes cheveux crépus. Et quand j'ai mes cheveux crépus ou autrement, ou même un bandeau dans les cheveux, il y a des gens, ils me touchent les cheveux. Donc c'est assez spécial qu'on vous touche quand vous connaissez pas les gens. C'est une agression. Donc moi, j'ai pris le parti. J'en ai marre de parler, donc j'ai pris le parti de faire la même chose. Donc
coup de pied.
Non, pas de coup de pied. Oui. C'est quand ils me touchent, ils les touchent. Du coup, ça les met mal à l'aise.
Ça a donné des scènes assez sympas, ouais.
Génial.
C'est la première fois que je vois un blanc, c'est incroyable. Alors, vous êtes doux ou pas? Je sais pas, ça pique.
Et du coup, ça les choque. Et du coup, ils se rendent compte et ils voient dans quel malaise on peut être. Ouais. Donc ouais, c'est assez spécial. C'est comme deux singes qui cherchent des poux.
Très bonne stratégie, en tout cas.
Donc voilà, je fais la même chose et du coup, ça, vraiment, ils se rendent compte à quel point c'est gênant qu'en fait, je passe ma main dans leurs cheveux.
Bah ouais.
Et du coup, voilà. Donc, se faire toucher, c'est très spécial. C'est très spécial, on n'a pas envie.
C'est une agression.
C'est une agression, oui. Alors, cette intersection de femmes, noires, arabes, autre chose que blanc dans notre société, ici. Alors, en plus, dans la musique... Alors, je peux pas dire en plus dans la musique. Je pense que c'est dans notre société, elle est compliquée. Oui. Donc, voilà.
En fait, il n'y a pas un milieu qui y échappe, tout simplement.
Voilà. Donc, du coup, voilà. Donc,
c'est pas spécifique, en tout cas, à ta profession. C'est dans toute ta vie, quoi.
Voilà. C'est voilà. J'ai pas envie de la parce que après, ça se retrouve bien sûr dans la musique, mais ça peut se retrouver dans la rue, ça peut se retrouver quand je cherchais du boulot, quand j'allais chercher un appart, dans plein de trucs. Donc voilà, je trouve que c'est peut-être pas intéressant de le mettre à ce niveau-là maintenant.
D'accord.
Voilà.
Bien.
Je crois.
On passe à la suite. Encore une super transition.
Mais c'est toi
à moi.
Qui continue,
c'est
tu gardes le mic.
Ouais, on va parler un peu aussi des stéréotypes que des femmes sur scène.
Oui.
C'est-à-dire que, alors j'ai discuté avec deux nanas qui sont de Aix-en-Provence, qui s'appellent Jeanne et Mélanie et qui forment à elles deux Claude Fernand. C'est un super groupe que je vous recommande de punk rock. Elles sont géniales, je les ai vues deux fois sur scène, c'est super. Et quand elles débarquent souvent dans les soirées où elles donnent des concerts, souvent on leur fait la réflexion genre « Ah, c'est vous le groupe de folk ?» Ben non, en fait, on fait du punk rock, rien à voir. Et voilà, elles ont souvent voilà, beaucoup de soucis à se faire respecter quand elles arrivent parce qu'elles sont toutes les deux jeunes, avec des cheveux longs, elles arrivent avec leur guitare et forcément, voilà... Les gens n'imaginent pas qu'elles puissent faire ce genre de musique. Et en tant que voilà que artiste de punk rock, elles doivent aussi souvent gérer un public alcoolisé, on va dire, parfois pas toujours très fin, avec des réactions bien bien viriles. Mais elles ont trouvé l'astuce et vous allez voir, elles ont beaucoup d'humour.
Salut, c'est Claude Fernand.
Comme on est un groupe de punk rock garage, on est beaucoup sur l'humour et le second degré. Donc ça veut dire qu'on insulte pour rigoler sur scène et tout. Donc on se fait insulter également. Mais il y a la différence entre l'insulte second degré qui vient d'un gars dans le public ou l'insulte véritable qui vient de quelqu'un complètement torché qui décide de dire ça comme ça parce que ça le fait kiffer. Et depuis un petit moment, on a ajouté une chanson qu'on fait souvent en rappel à la fin du concert. C'est une reprise de Philippe Catherine qui s'appelle « Excuse-moi ». Donc en fait, cette chanson parle du fait qu'il y a un gars qui éjacule trop vite et il essaye de penser à toutes sortes de choses improbables pour s'empêcher d'éjaculer. Donc nous, on fait cette chanson en mode punk rock, trop vénère et ça nous fait délirer. Et en général, quand on fait cette chanson... on commence toujours par demander qui éjacule trop vite ici, dans la salle. Alors soit, en général, ce qui se passe souvent, c'est comme il y a beaucoup de potes, soit il y a un gros « ouais !» général, soit il y a un gros blanc, ça nous est déjà arrivé qu'il y a une meuf juste toute seule dans un blanc qui dit « lui !» mais sinon, en général, quand on fait ça,
il y a un gros blanc
souvent, ouais. Mais ça calme les nerveux et ça rassure les timides quelque part, parce que bon, c'est pas grave d'éjaculer trop vite. Il faut le dire.
Alors, qui éjacule trop vite dans la salle? On a un super public.
Précoce et fier de l'être.
Il y a quand même quelques mains qui sont levées. Il y a beaucoup de femmes dans l'assistance, mais il y a quand même un gros ouais. Bravo les garçons.
Bravo. On avait autre chose à dire?
Oui, non, je sais pas, j'avais pas grand chose.
Maintenant, on est bien mal à l'aise, alors comment...
Maintenant qu'on a mis le malaise, non, je sais pas si vous avez souhaité réagir à... Non, pas au fait d'éjaculer trop vite. On n'est pas sur ce thème-là, mais sur le fait de
l'éjaculation féminine, voilà. Qu'en pensez-vous?
Réagir comme ça par l'humour, tu en parlais tout à l'heure, Francine, avec les cheveux, en disant je fais comme toi. Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça dans votre quotidien pour justement rembarrer...
Je pense que de toute façon, toutes les femmes, elles sont pleines d'astuces tout le temps, hein, pour pouvoir...
Ah bah, c'est clair.
Alors moi maintenant, là, je me mets un peu à l'abri quand même de pas mal de réflexions. Oui, c'est
mais
une réalité. Je sais pas, je pense...
L'esquive, c'est une bonne stratégie. Hein.
Oui, en tout cas, c'est franchement, réellement, ça fait un moment que ça m'est plus arrivé d'avoir des réflexions.
Je sais
pas
si bien.
C'est positif ou pas. À voir.
Par l'humour, moi par exemple, qu'on a repris du coup la salle avec Odd, mon associé, il y a beaucoup de gens du milieu qui sont arrivés et nous ont dit putain les filles, vous avez des couilles. Et j'aurais dit non, j'ai pas de couilles quoi, j'ai des ovaires. Donc à un moment,
bah ouais, c'est encore mieux.
Voilà, il faut remettre les gens dans
leur... Ouais, le courage est toujours associé à quelque chose de masculin.
De masculin, très bien.
Le fait d'avoir du courage, quoi que ce soit, c'est forcément masculin.
J'en ai entendu aussi une magnifique dans ce style. Il faut bien voir le contexte, c'était la 3e édition du festival, donc c'était il y a longtemps déjà. Et on avait fait, ça a été la première grande scène en France, Goran Bregovic. Et évidemment, c'était magistral, hein, 40 musiciens sur scène. Enfin bon, voilà, quand on a découvert Goran Bregovic, donc c'est vrai que ça... Voilà, d'un seul coup, en plus, ça nous a donné un poids énorme, hein, au niveau du festival. Et là, je vois un collègue du milieu musique actuelle. On discute un soir, j'étais ravi, évidemment. Et il me dit, mais tu sens pas un petit sexe, là, te pousser par hasard?
Waouh.
C'est dur, ça, c'est chaud.
Gênant.
Ça, c'est une vraie réalité, c'est vraiment du vécu. Et encore, j'emploie pas les mots qu'il a employés.
Ah, ouais, non, on n'a pas envie de les entendre. Au secours.
Bon, ben moi j'avais envie de vous parler d'une warrior. Il y a une actu là, le 1er octobre, je sais pas si vous avez suivi. Il y avait l'ensemble baroque La Chapelle Harmonique qui donnait un concert à l'auditorium de Radio France. Alors, j'ai pas appris par cœur, donc je lis. Dans le public, il y a Adèle Charvet qui est cantatrice mezzo-soprano. Elle est juste venue passer une bonne soirée et encourager le chef d'orchestre qui est un pote à elle. Et à l'entracte, elle va en coulisses pour demander si tout va bien. Et en fait, elle découvre que tout va mal. La régisseuse lui dit que le contre-ténor David Deculi ne peut plus chanter une seule note. Du coup, alors qu'elle ne connaît absolument pas la partition, eh ben elle va le remplacer au pied levé. Ils ont rallongé un tout petit peu l'entracte pour lui permettre de répéter, mais vraiment très vite. Elle tremble comme une feuille, c'est stressant au possible. Et finalement, ben, en warrior qu'elle est, elle finit par monter sur scène en jean t-shirt au milieu des musiciens habillés de façon super codée et super classe. Et elle assurera le concert avec brio qui se finira par une ovation. Et pour info, si jamais ça vous intéresse, le concert il sera diffusé le 5 novembre à 20h sur France Musique. Mais je me suis dit que c'était un bon exemple de warrior à citer.
Carrément, alors pour là, coup, c'est énorme.
Dans le registre, on n'a pas besoin des hommes et on assure grave. Adèle, elle se pose là.
Bravo Adèle. Big up. Alors là, on va faire notre rubrique self-care.
Qui n'a toujours pas de générique.
Donc en gros, la rubrique self-care, c'est la rubrique où on donne justement des conseils concrets que les personnes peuvent appliquer. Donc c'est là qu'on va vous demander en fait vos victoires Si vous aviez peut-être une anecdote, un moment où vous avez réagi, bah, un peu comme celle qu'on a, enfin les témoignages qu'on a entendus tout au long de l'émission. Ça peut être aussi juste bah, typiquement le fait d'avoir repris une salle alors que c'est très rare dans ce milieu. Enfin, c'est pas forcément.
Une réplique ou une grande réussite.
Oui, voilà, exactement. Alors, Marie-Josée, est-ce que tu as une idée ?
Non, pas une anecdote, parce que moi, c'est vrai que le festival, la manière dont il s'est développé, il s'est épanoui, pour moi, ça a été, voilà, ça a été la manière vraiment de conforter, de montrer que oui, une femme est capable de diriger un festival, et d'un, et de deux, de programmer, d'avoir, d'être reconnue comme une bonne directrice artistique, enfin, vraiment, c'est ça, et ça s'est fait avec la qualité de la programmation, avec la rigueur, avec évidemment beaucoup de travail. Ça, je pense que du coup, c'est énormément de travail. Voilà, c'est ça, ça demande beaucoup plus souvent.
Plus que si c'était pour un homme. Oui, en fait.
Mais il faut pas juste être bonne, faut être la meilleure en fait.
C'est ça, faut être la meilleure. C'est exactement ça. Il n'y a pas le choix.
Pour arriver au même niveau de reconnaissance qu'un homme, on doit faire trois fois plus.
Trois fois plus, et ça prend plus de temps sur la durée aussi. Vraiment, parce qu'il me semble que ça, au moins, il y avait quand même des éléments qui, ça aurait pu être reconnu plus tôt. Bon, si je suis dans un milieu des musiques du monde, c'est pas non plus le milieu qui rapporte le plus d'argent. Donc c'est pas non plus le plus macho à l'intérieur des musiques actuelles, parce que justement, ce n'est pas celui qui rapporte le plus d'argent.
Parce que c'est ça, les hommes sont attirés par l'argent.
Bah, quand même, il y a des déterminants. Je pense que la musique actuelle, c'est vraiment un domaine très machiste, très machiste. Il suffit d'aller au Printemps de Bourges, par exemple, à l'accès pro, à l'endroit où il y a les bars, etc. Nadine, qui est là-bas, connaît le lieu comme moi. C'est stupéfiant, quoi. On voit vraiment que des hommes. Il y a quelques nanas qui sont soit assistantes, soit chargées de communication. C'est clair.
La musique électronique aussi, c'est, on a des copines qui ont un label qui s'appelle Wicked Girls pour programmer des femmes. Elles disent, c'est un milieu d'hommes. Alors que musique électronique, enfin, je veux dire, il n'y a même pas besoin de force physique. Si c'était l'argument préhistorique pour justifier la différence entre hommes et femmes, là, non. Et ça continue d'être complètement trusté par les hommes. Juliette, une victoire.
Eh oui, elle nous l'a teasé tout à l'heure. Enfin, je l'ai obligée à la teaser. On attend.
Le suspense est complètement insoutenable.
Mais t'as un sourd spectacle, Juliette, c'est incroyable.
Oui, merci, du coup. Non, moi, la grande victoire, du coup, c'est une conséquence de ma première victoire. Du coup, vous allez avoir deux victoires pour le prix du
Monde. Waouh, la
chance.
C'est
la fête.
Bravo.
La première victoire, moi, ça a été de faire mon master, du coup, en études de genre et de comprendre ce qui se passait, en fait, de façon systémique dans le milieu de la musique, c'est-à-dire... des choses qui dépendent pas de nous, en fait, qui sont entretenues, comme le sexisme ou le racisme dans ce milieu-là, comment elles s'appliquaient sur les stats, sur les stratégies, etc. Et donc, c'était hyper chouette parce que d'un coup, je comprenais que non, les femmes étaient pas plus nulles que les autres, c'est juste qu'elles faisaient face à un système qui était construit pour pas leur laisser de place. Et donc, du coup, c'est sur une histoire de place. Et donc là, on arrive au deuxième point. Le teasing est incroyable. Et donc, c'était de, comme tu disais, de retenir qu'on peut... qu'il faut faire ce qu'on veut et de prendre sa place. Et surtout pas de l'attendre parce que personne ne va nous la donner, surtout en musique. C'est de la on n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est beaucoup, beaucoup de cooptation avec tout ce que ça peut comporter de sexiste, puisque c'est que des mecs, surtout dans les positions hyper hautes. Et donc, de créer une fanfare en non-mixité, donc sans mecs, cisgenres.
À Marseille.
À Marseille.
Yes.
Bravo.
Voilà.
Bravo.
Des cuivres, des percus, du bruit. Dans l'espace public, voilà.
Et elle a un nom, cette fanfare ?
Tout ça. Toujours pas.
Toujours pas.
Bientôt.
C'est bien comme nom,
bientôt.
Toujours pas.
Toujours pas, c'est pas mal, ouais.
Toujours pas l'égalité, c'est très bien. Tant que ça y est pas,
tant
ça s'appelle toujours pas. Tant qu'il le faudra. Alors, une victoire, Francine ?
Moi, je vais aller dans le même sens que mes camarades. C'est-à-dire qu'en fait, oui, il faut faire sa place. Et moi, je pense que, en fait, depuis le début... j'ai fait ma place, en fait. Pour moi, je l'ai créé ma place, en fait. Parce que ça a été c'était pas facile. Il y a des moments hyper difficiles. Mais aussi parce que on vous en donne pas, en fait. Et que, par exemple, on peut avoir des petits jeunes. Alors, je dis pas que... Voilà, j'ai 38 ans, je vous le dis. J'ai 38 ans. Et on va avoir des petits jeunes qui vont avoir 20 ans. Ils vont arriver et 5 ans après, d'autres programmateurs, d'autres personnes vont leur parler comme ils vous ont jamais parlé à vous. Ça veut dire qu'ils vont leur donner plus de crédit comme on vous en a jamais donné. Et c'est très, très dur.
Bien sûr.
Et voilà. Donc maintenant qu'on a une salle de spectacle, même si on a mis 15 ans, ils nous parlent maintenant comme...
bah, une personne en fait. Enfin. Et du coup, ça, voilà. c'est en même temps, c'est rageant parce qu'il a dit il a fallu qu'on arrive tout ça, arriver à ce niveau-là pour qu'on puisse nous parler comme à des personnes et pas comme à des bébés. Mmh. Parce que les femmes, on nous infantilise beaucoup et tout le temps. Et voilà.
Le seul avantage que je vois à tout ça, c'est que du coup, par contre, le goût de la victoire est hyper fort, quoi, parce que quand tu galères à ce point pour arriver à atteindre tes objectifs, par contre, la victoire, tu la dois qu'à toi-même et tu as une fierté totale et que tu n'as à partager avec personne. Du coup, c'est le seul petit avantage que je peux voir, moi, de me dire cette fierté, elle n'a pas de prix, quoi.
Alors, je pourrais dire oui et non, parce que cette victoire, je l'ai eue quand même entourée et accompagnée par des hommes et par des femmes du milieu qui ont cette vision-là aussi. Donc, je suis obligée de dire aussi qu'il y a...
C'est une victoire collective.
Voilà. Ouais. Actuellement, il y a des gens, comme je disais, on a été accompagnés. Moi, j'ai été accompagnée par l'ami. Et je sais qu'il y a Elodie, mais il y a aussi Greg Duvernay. J'ai été accompagnée...
Alors, l'ami, qu'est-ce que c'est ?
C'est
ton ami ?
C'est l'association... Non, attends.
Association musique...
Innovatrice, je crois.
Voilà.
Donc, c'est un organisme...
C'est un organisme... C'est le fait qui organise le festival Mimi, mais qui accompagne aussi des porteurs de projets, donc moi j'ai été accompagnée en 2011 et en 2012. Ils m'ont tous dit que j'étais une folle, mais voilà, ils m'ont aidé à me structurer. Mais aussi, comme des personnes comme Nadine aussi, Verna, comme Thierry Noah, comme j'ai dit aussi, comme Johan, comme des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours.
C'était un macho là ?
Oui. oui, parce qu'il m'a apporté aussi quelque part beaucoup de choses. Et voilà, donc c'est pas que toute seule. Il y a dans ce milieu, il y a aussi des gens qui vous accompagnent et qui arrivent. Pas tous, donc il faut dire que ça existe. Voilà, qu'il y ait.
Bien.
Voilà.
Eh ben, bravo pour l'ensemble de vos carrières et puis pour tout ce qui vous attend encore, parce que c'est loin d'être
bravo
fini.
Bravo à tous les trois.
C'est du coup la fin de cette émission super spéciale. Si vous voulez creuser un peu le sujet, on en a parlé, mais on vous recommande le projet Paye ta note, qui recueille des témoignages de sexisme dans le milieu de la musique et dont la fondatrice nous a très gentiment aidé à préparer cet épisode.
C'est elle qui nous a dénoncé Juliette.
Voilà. Merci nos invités, donc Juliette, Francine, Marie-Josée. Merci d'être venue, de nous avoir éclairés et inspirés. On remercie aussi les Warriors pour leurs témoignages, donc Kat, Lina, Milena, Alani, Mélanie et Jeanne. Ça fait beaucoup d'anagrammes, tout ça. Bravo et merci d'avoir partagé vos victoires avec nous. Je rappelle que l'appel à témoignages pour le prochain épisode est ouvert. Nous parlerons des Warriors LGBTQI+. Donc, si t'as réussi à retourner le cerveau de l'homophobe de base, si t'as recadré les fantasmes des gens sur ta bisexualité, si t'as fait un coming out flamboyant, ou encore si ta compagne et toi avez eu recours à la PMA malgré le retard abyssal de la France à ce sujet, raconte-nous tout, on veut tout savoir, et tu peux nous écrire à warriors@yespodcast.fr.
Yes, avec 3 S.
Avec toujours 3 S. On remercie toute l'équipe de la Fiesta des Suds, et plus particulièrement Lucie, la directrice, et Guillaume.
On merci, vous êtes des amours. Je sais pas quoi s'ils sont là. Ah si, il est là, il nous fait un cœur avec les doigts.
Pour nous avoir invités si bien reçus, on est vraiment super heureuse d'avoir pu travailler avec vous et on est pressé de prolonger la soirée, mais cette fois côté public et pour la meilleure partie, c'est-à-dire l'apéro, celle qu'on préfère. On remercie aussi l'équipe de Tsugi Radio qui nous a prêté son plateau, son matériel et même Cédric, son réalisateur.
Merci Cédric.
Merci beaucoup. On n'oublie pas de citer l'équipe de la Podcast Factory qui nous produit et enfin notre fantastique public qui est resté très sage tout le long.
Ah, ça y est, ils se réveillent. Bravo.
Ils sont vivants.
Ils sont là. Ils sont
aucun
là.
Membre du public n'a été maltraité, même pas les hommes, je vous le jure. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On vous invite dans quelques minutes à venir boire des verres avec nous, échanger, peut-être nous raconter vos victoires également. Donc à toi qui nous écoute et qui n'est pas là, tu le sais maintenant, mais je suis obligée de le dire. Tu peux nous écouter sur toutes les plateformes, de iTunes à Spotify, Podcast Addict, etc. Tu peux nous laisser des suggestions de sujets et nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça nous fait super zizir.
Ouais, c'est même obligatoire. Et les réseaux sociaux aussi.
Et sur les réseaux sociaux. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, on croit en toi, on croit en ton talent, en tes valeurs, en ton pouvoir. On te doit le respect qui qu'on soit. Tu vas percer, tu vas briller, tu vas nous illuminer. Bref, meuf, t'es une warrior.
Yes.
Bravo.